Bonjour et bienvenue, le grand face-à-face de France Inter en direct jusqu'à 13h et nous sommes ensemble avec vos rendez-vous du samedi, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein dans un instant et puis le débat du week-end, comment refonder notre modèle démocratique, comment répondre à la crise de la représentation que nous traversons, des questions qui sont au cœur de Libres et égaux en voix, le dernier essai de Julia Cagé, elle est professeure d'économie à Sciences Po, elle était au comité de Benoît Hamon lors de la dernière campagne présidentielle et elle préside l'association des lecteurs du journal Le Monde. Elle milite pour un modèle alternatif de financement des médias. Je cite Julia Cagé, « La démocratie, c'est non seulement une personne, une voix, mais une personne informée, une voix. » Alors, quelles sont ses propositions pour refonder notre modèle ? Partis politiques, médias, je vous le disais, système électoral, on va en débattre avec elle. Rendez-vous avec Julia Cagé dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, le duel.
France Inter. Le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Et pour commencer, évidemment, un discours qui était très attendu, longtemps repoussé et qui a eu lieu hier.
Il y a un islamisme radical qui conduit à nier les lois de la République, qui conduit à banaliser la violence et qui a conduit certains de nos citoyens, de nos enfants, à choisir le pire ou à considérer que le pire était devenu naturel. Et donc à créer les conditions de dérives politiques, mais aussi de dérives violentes, celles du terrorisme islamiste.
C'était évidemment la voix du président de la République, Emmanuel Macron, hier au Mureaux. Il parlait de son plan d'action contre les séparatismes avec de nombreuses annonces concernant l'école, concernant l'obligation de neutralité étendue aux délégataires du service public. Il a également parlé de la fin du système des imams détachés formés à l'étranger, d'un plan de relance pour l'émancipation de nos quartiers, du motif de dissolution des associations qui devraient être étendues et de l'accentuation de la lutte contre la radicalisation. Beaucoup de sujets, beaucoup de mesures annoncées. Natacha, qu'est-ce que vous en avez retenu ?
Alors, premier point, et une fois n'est pas coutume, je trouve qu'il faut saluer ce discours parce qu'il n'était pas seulement dans le lyrisme, il n'était pas seulement dans les mots, il y a des actions concrètes et des décisions qui ont traîné pendant des années, qui étaient dans l'air du temps, dont tout le monde savait qu'il faudrait les mettre en place, et enfin, on les met en place. Donc, pour ma part, j'ai trouvé que pour une fois, on ne se perdait pas dans les bonnes intentions. Je souligne également que Emmanuel Macron a essayé de tenir les deux bouts, c'est-à-dire de ne pas être seulement dans la dénonciation du communautarisme, enfin lui dit du séparatisme, mais qu'il a aussi tenu compte de la responsabilité de l'État. Et la veille de son discours, le journal Le Monde a publié une tribune absolument excellente de Chemseddine Hafiz, qui est le recteur de la Grande Mosquée de Paris, que j'ai trouvé vraiment parfaite dans son analyse, dans sa lucidité, expliquant à la fois comment certains avaient laissé prospérer une version radicale de l'islam, une interprétation des lois coutumières, mais qu'ils n'ont pu le faire que parce qu'il y a eu d'abord ce qu'il appelle une politique de l'excuse et aussi parce qu'il y a eu des défaillances de l'État et un recul de l'État. Alors, c'est là-dessus que je voudrais insister aussi, c'est que sur ce volet-là, l'abandon, en fait, par l'État de ses prérogatives, Emmanuel Macron l'a évoqué, il en a parlé, il y a des promesses sur ce point-là.
Oui.
La question que je me pose en entendant ce discours, c'est les décisions sont bonnes, les intentions sont bonnes, quels sont les moyens réels dans la mesure où la tâche est absolument immense. C'est-à-dire que c'est très bien de dire on va par exemple avoir des professeurs d'arabe qui ne soient pas envoyés par des pays étrangers, formidable. Comment on fait, comment on les forme, où est-ce qu'on les trouve, à quelle échelle temporelle. Après, oui. Je laisse Gilles dire ce qu'il pense de ce discours et après peut-être aborderons-nous les points plus complexes comme par exemple la question de l'école.
Exactement, justement, j'allais y venir. Gilles, qu'avez-vous retenu des annonces faites par le chef de l'État hier ?
Ouais, vous l'avez évoqué, Ali, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de propositions et avant qu'on revienne au moins sur certaines d'entre elles, peut-être un mot sur le positionnement qui a été celui d'Emmanuel Macron dans ce discours. Après une très longue réflexion, ça fait maintenant des années que ce discours est attendu, après pas mal d'hésitations. Emmanuel Macron, d'ailleurs, lui-même, dans son discours, évoque cette tentation d'un islam concordataire qu'il a finalement écarté. Mais je trouve qu'il évite la cécité qui peut être celle d'une partie de la gauche et la stigmatisation qui est très souvent celle de l'extrême droite.
Il a réussi à éviter ces deux écueils-là.
Je trouve, il a réussi à imposer ce qui est difficile à imposer, son mot, son vocabulaire, sa grammaire avec ce mot de séparatisme. Il a assumé une clarification de ce mot-là, puisqu'il y a encore quelques jours, on parlait des séparatismes. Là, il a entièrement centré, peut-être à l'excès, mais il a entièrement centré son discours sur le séparatisme islamiste, qui, je crois, est un problème réel, et il a eu raison de le situer à la fois dans un contexte international de radicalisation de l'islam et de division de l'islam, mais aussi des propres responsabilités de la République française. Donc je trouve que le positionnement est bon, qu'il y a beaucoup de propositions, mais que, comme très souvent en politique en général et très souvent avec Emmanuel Macron, la question maintenant va être une question d'exécution.
Question d'exécution, il y a donc un plan qui est prévu, le projet de loi devrait être bouclé d'ici la mi-octobre, il devrait être présenté en Conseil des ministres le 9 décembre prochain, puis discuté au Parlement en 2021. Parlons de l'école justement, Natacha, ces nouvelles règles pour l'école qu'annonçait Emmanuel Macron, l'instruction scolaire à domicile sera à partir de la prochaine rentrée scolaire, je cite le président, strictement limitée notamment aux impératifs de santé. Elle deviendra donc obligatoire au sein de l'école dès l'âge de 3 ans. Est-ce que c'est l'une des mesures qui sont de nature à changer les choses ou à lutter efficacement contre les origines de ce séparatisme islamiste ?
Alors, c'est une mesure qui est d'abord majeure dans l'histoire de la République française, puisque jusqu'à présent, c'était l'instruction qui était obligatoire. Désormais, c'est l'école qui devient obligatoire. C'est une décision vraiment extrêmement importante. On comprend bien la volonté d'Emmanuel Macron de limiter un mouvement qu'on observe depuis quelques années, et pas seulement de la part de familles adeptes d'un islam radical, pas seulement du tout, cette volonté de la part de familles de reprendre en main l'éducation de leurs enfants, ce qui risque de détruire cette dimension de creuset national que doit avoir l'école républicaine, parce que tout l'enjeu est là. Comment on forme des citoyens? Comment on fait en sorte de ne pas avoir uniquement des individus qui n'ont rien à voir entre eux et qui considèrent qu'ils n'ont rien à voir avec ceux à côté de qui ils vivent? C'est tout cela l'enjeu de l'école. Or là, j'ai été très intéressée par les réactions des uns et des autres. Alors on a évidemment, et sans surprise, tous les tenants, même des écoles hors contrat, qui pourtant elles sont reconnues et auront le droit de perdurer, oui. Et des écoles hors contrat, notamment catholiques, qui commencent à s'inquiéter, à se demander s'il n'y a pas une remise en cause de leur possibilité même d'exister. Donc, je passe d'ailleurs sur la question du contrôle. Comment on va faire pour aller récupérer ces enfants qui sont sortis de l'école? Mais ce phénomène touche aussi de plus en plus des familles qui considèrent que l'école ne s'adapte pas à la personnalité originale de leur enfant. Et c'est là qu'on va rencontrer des difficultés. Parce que, en fait, la décision d'Emmanuel Macron va à l'encontre d'un mouvement actuel qui n'est pas seulement celui d'un séparatisme religieux, mais qui est un mouvement d'individualisme total qui fait que beaucoup de parents n'acceptent plus le fait que leurs enfants doivent se plier à une règle normale et qu'il appartient à la puissance publique aussi d'obliger à certaines choses dans ce domaine-là. Oui. Et j'ajoute que j'ai vu des réactions de professeurs, et là aussi c'est très intéressant, de professeurs qui sont profondément attachés à l'école républicaine, mais qui justement pour cela critiquent son état actuel et qui là ont réagi en disant « Mais donc, les parents qui sont scandalisés de l'échec actuel de l'école, de son incapacité à former correctement les enfants, ne pourront plus y échapper et on les oblige à aller dans une école. » J'ai trouvé ça va donner lieu à des débats sans fin. La question de la liberté individuelle qui est au cœur de ce problème-là est extrêmement intéressante et je ne suis pas certaine pour l'instant d'avoir des réponses faciles à ce problème-là.
Alors justement, Gilles, sur la question scolaire, la dimension scolaire qui était donc au cœur du discours du président.
Oui, c'est sans doute la décision, l'annonce la plus spectaculaire. Natacha Ponidi, c'est une décision majeure. Ça l'est sur le plan des principes, puisque elle l'a dit, il y avait une distinction entre l'instruction et l'école. Il faut bien comprendre que ce dont il s'agit, ce n'est pas de rendre l'école obligatoire à 3 ans, puisque c'est déjà le cas, mais c'est de faire en sorte que cette instruction se fasse à l'école et pas dans les familles. Est-ce que c'est un changement? Qu'est-ce que ça touche concrètement? On pourrait dire, ça touche en réalité peu d'enfants. On dit c'est aux alentours de 50 000 enfants sur l'ensemble des enfants qui sont scolarisés. Donc ce n'est pas beaucoup. D'autant que parmi ces 50 000 enfants, il y en a au moins la moitié qui continueront à être scolarisés à domicile parce que c'est pour des raisons médicales que vous avez évoquées. Mais même s'il ne s'agit que de 20 000 enfants, c'est quand même tout à fait important. Derrière ça, il y a une série de problèmes. Quand je dis on va passer à l'exécution, c'est ça, à l'exécution des décisions. Il y a les problèmes techniques que Natacha Polony vient d'évoquer, c'est-à-dire de fixer la frontière. On dit le médical peut continuer, pour des raisons médicales, on peut continuer à avoir une instruction chez soi, dans ce mouvement qui n'est pas seulement un mouvement d'individualisme, y compris, je mets à part le séparatisme de parents qui considèrent que leur enfant n'est pas adapté à l'école ou que l'école n'est pas adaptée à leur enfant, il y a quand même un sujet. Il va y avoir des questions juridiques de constitutionnalité et il va y avoir enfin, et c'est très important, un problème pratique de contrôle parce que beaucoup de ces enfants iront dans des écoles hors contrat et donc il faut voir comment ce contrôle s'effectuera.
Il y a un autre sujet avant de passer au prochain chapitre, Natacha, en l'occurrence la question de l'obligation de neutralité qui sera étendue aux délégataires du service public et le président mentionnait un exemple, celui du contrôleur de transport public qui ne laisse pas monter une femme dans le bus. Je crois que c'était l'exemple qu'il prenait pour des raisons vestimentaires. En l'occurrence, est-ce que ça, c'est de nature, par exemple, à lutter contre le séparatisme, pour vous, première question? Et la deuxième, est-ce que c'est aussi une manière de dire que les mères voilées, par exemple, pourront accompagner leurs enfants lors des sorties scolaires?
De toute façon, Emmanuel Macron a été clair sur ce point. Il n'est pas sur la position de Jean-Michel Blanquer. Il n'a pas l'intention pour l'instant d'interdire le port du voile lors des sorties scolaires pour les accompagnantes. Donc là, les choses ont été clarifiées aussi. Et ce qui est intéressant, me semble-t-il, c'est pas que cette neutralité pour la délégation de services publics va lutter contre le séparatisme. Enfin, c'est-à-dire cette expression « lutter contre le séparatisme » est extrêmement floue. C'est juste que ça va rappeler certaines choses, et notamment la loi, en effet. Par exemple, dans le cas cité par le président, la loi, c'est que les femmes ont le droit de s'habiller comme elles veulent. Et que
on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure.
Voilà, que nous devons préserver. Et le deuxième point, c'est en effet, ça peut enclencher, je l'espère, une réflexion sur ce que signifie au fond la laïcité, c'est-à-dire le fait que ce ne sont pas des règles juridiques, mais l'idée d'une forme de mise à distance des opinions, des croyances, des individus, et notamment quand ces individus sont censés représenter la puissance publique. C'est cela qu'il faut rappeler, c'est au cœur de notre pacte politique et social, et je pense que si on peut arriver petit à petit à clarifier par certaines règles cette question-là et à rappeler qu'il ne s'agit pas d'être dans un juridisme total, mais uniquement dans une forme de culture de la discrétion, pour reprendre un terme qui avait fait polémique, mais qui, moi, me semble juste, pour tout le monde, discrétion pour tout le monde, c'est de nature à apaiser les rapports sociaux.
Gilles, sur la question des services publics.
Oui, sur la question des services publics, et peut-être même plus largement, en réalité, il ne s'agit pas d'un discours sur la laïcité, il s'agit d'un discours de combat de la République contre le séparatisme islamiste. C'est ça qu'a voulu faire Emmanuel Macron, et je trouve une des difficultés dans l'interprétation que maintenant, le travail qu'il faut faire sur ce discours, parce que en fait, derrière chaque mot ou derrière chaque ligne, il faut essayer de décrypter ce qu'il y a. Il faut essayer de démêler non pas le vrai du faux, mais le neuf du vieux, parce qu'il y a beaucoup de répétitions de mesures qui ont déjà été annoncées. Par exemple, l'enseignement des langues et des cultures d'origine, ça fait 10 fois, ça fait des années qu'on en parle. Il faut essayer de débusquer ce qui est flou derrière la profusion de propositions. Je donne un seul exemple. Quand Emmanuel Macron dit pour régler les questions de financement, on va le faire grâce à la structuration du pèlerinage pèlerinage de la Mecque. Qu'est-ce qu'on met derrière exactement? Je ne sais pas. Et puis enfin, il faut repérer des trous. Il y a, c'était peut-être pas l'objet du discours, mais Emmanuel Macron termine par une partie où il dit qu'il faut aimer la République. L'autre face de ce discours pour lutter contre le séparatisme, c'est de faire en sorte que le modèle républicain tienne ses promesses. En gros, c'est le plan Borloo. Eh bien, ce volet-là, peut-être que c'était pas le jour, mais il est toujours manquant.
D'un côté, Natacha, d'un mot, qu'est-ce qu'il manquait à ce discours-là pour vous?
Mais je suis sur la même position que Gilles. C'est-à-dire, la question est de savoir comment on fait pour que la promesse républicaine soit tenue, c'est-à-dire que l'État soit présent dans des quartiers où il ne l'est plus.
Oui.
Alors, il ne s'agit pas de dire que seuls les quartiers populaires, les banlieues ont été abandonnés, parce que l'État s'est retiré de tous les territoires ruraux également. Mais ce retrait de l'État, c'est l'abandon de la prérogative de la puissance publique qui permet d'égaliser les conditions, c'est-à-dire de faire en sorte que tout le monde et les mêmes chances. De fait, en France, il n'y a plus d'égalité des chances.
Et on aura l'occasion, évidemment, de
vivre correctement sur un territoire. Donc, c'est absolument essentiel. Ça nécessite une réflexion plus globale sur l'économie et sur l'organisation, sur l'aménagement du territoire. Pour l'instant, en effet, on attend toujours.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Pour nous, on fait des estimations à partir du nombre d'hospitalisations et on serait plutôt autour de 25 000 cas par jour et non les 10-15 000 cas qui sont déclarés dans la base CIDEP. Si on reste sur la même trajectoire, on double à peu près tous les 15 jours. Ça voudrait dire donc qu'on passerait de 25 000 à 50 000, ce qui est considérable. C'est une situation qui demande d'agir rapidement.
Le professeur Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, membre du Conseil scientifique qui s'exprimait jeudi aux côtés du ministre de la Santé. Pas de nouvelles mesures fortes, en revanche une sévère mise en garde. Gilles, comment interpréter ce discours politique qui a changé par rapport à ce qu'on pouvait entendre il y a quelques mois? Faire comprendre aux Français que la situation est grave, qu'il y a urgence à adopter des mesures de protection et d'un autre côté, ne pas annoncer de nouvelles mesures restrictives.
C'est vrai qu'on est dans un moment étrange où on voit que le virus circule de plus en plus rapidement et surtout qu'il circule de plus en plus dangereusement, au sens où on est passé d'une contamination plutôt des jeunes vers les plus âgés, où il y a un certain nombre de villes dans lesquelles on est 5-6 fois au-dessus du seuil d'alerte et où on voit se profiler l'engorgement des hôpitaux, et dans le même temps il y a peu de décisions. Pourquoi? Je n'en sais rien. L'analyse que je crois qu'on peut faire, c'est que la maladresse sur la forme qu'il y a eu à l'occasion des décisions à Marseille,
oui,
a conduit à une mollesse sur le fond aujourd'hui, un peu par précaution.
Même si les Parisiens vivent en sursis.
Et que la crainte du gouvernement n'est pas que il y a une majorité qui conteste les décisions. On voit d'ailleurs dans les enquêtes qu'une majorité est prête à des décisions plus lourdes, mais qu'il y ait une minorité qui les refuse. Et ça, c'est un élément qui est tout à fait nouveau. On l'avait vu se dessiner, s'esquisser avec les anti-masques. On a vu des premières réactions, soit juridiques, soit concrètes, à Marseille. Je pense que la crainte, elle est là, et que cette crainte est d'autant plus forte qu'on est à un moment dans lequel la confiance dans le gouvernement pour régler la crise sanitaire est la plus faible depuis le mois de mars, depuis le confinement. Et lorsque on interroge les Français sur est-ce que dans le passé, le gouvernement a pris les bonnes décisions, il y a 24% des Français qui disent oui. Et pire encore,
un quart seulement.
Et pire encore, quand on leur demande dans le futur, est-ce que le gouvernement sait où il va, il y en a 15% qui disent oui. Et donc, il y a un sentiment, je pense, de fragilité du gouvernement qui explique cette temporisation.
Natacha Polony.
Oui, je pense que en effet, la crainte de minorité qui refuserait est importante, même si il faut bien comprendre que ceux qui aujourd'hui appellent au secours, disent qu'ils vont crever de ces décisions, les restaurateurs, les bistrotiers, et puis derrière tous ceux qu'on n'entend pas, des chauffeurs de taxi, des gens comme ça, tout cela, en fait, se conforme à la loi, à la fin, même s'ils se font entendre. Et qu'il y a une forme d'acceptation de la règle qui est quand même ultra majoritaire. Le seul problème, c'est en effet des petites minorités qui pourraient éventuellement ne pas accepter la règle et le fait que ceux qui l'acceptent vont souffrir tant que la colère, le ressentiment peut, travailler une part de la population. Ce qui en fait me semble un petit peu gênant aussi, oui. C'est le côté un peu ballon d'essai qu'on a l'impression de vivre, c'est-à-dire le fait que des rumeurs se répandent, on va vers un reconfinement, on va vers des interdictions, comme s'il y avait, et de la part même de certains conseillers proches, de certains conseillers ministériels, qui agite des chiffons rouges comme si on voulait tester justement l'état de l'opinion. Je pense qu'il n'y a rien de plus malsain et je pense que la clarté est la seule façon peut-être de permettre d'accepter quelque chose qui pour certains va être extrêmement douloureux, voire parfois dramatique en termes économiques.
France Inter, le grand face-à-face. Le duel.
Il y a des professeurs qui disent ça déconcentre les garçons. Ben bien sûr que ça déconcentre les garçons. Moi, quand je vais dans la rue, si vous voulez, des jeunes filles avec le crop top, ça me déconcentre.
Vous avez reconnu évidemment la voix d'Alain Finkielkraut sur LCI il y a quelques jours. Alain Finkielkraut qui est déconcentré par les jeunes filles en crop top. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi autour de cette tenue correcte exigée ou non, cette tenue républicaine, le sondage qui a fait polémique, sondage qui a été produit par l'Institut IFOP. La Fondation Jean Jaurès, c'est donc vous, Gilles, vous avez refusé de vous y associer. Et vous, Natacha, en revanche, vous avez décidé de le publier à Marianne. Je voulais entendre justement les arguments de l'un et de l'autre autour de ce sondage qui effectivement a suscité un nombre de réactions absolument considérable. Gilles, d'abord, pourquoi ne l'avez-vous pas publié? Et puis Natacha nous dira pourquoi elle trouve qu'il était intéressant malgré tout de s'y associer.
Écoutez, compte tenu de la tornade numérique que ça a déclenché, je dois dire que je ne suis pas mécontent qu'on ne s'y soit pas associé. Je ne vais pas faire le malin. Ça a été d'abord une intuition. C'était une décision que je devais prendre dans l'urgence, que l'on essaye d'éviter. Et à la lecture de l'intitulé, de la rédaction des questions, j'ai éprouvé une sorte de malaise et j'ai tout simplement dit « Écoutez, je ne le sens pas et donc on ne fait pas ». À la réflexion, j'ajoute quand même un mot. Le problème, à mon sens, n'est pas l'objet de cette enquête, c'est-à-dire les tenues correctes, qui est un sujet de société, ni même de faire un sondage sur ces questions-là, parce que c'est des sujets sur lesquels les Français peuvent légitimement avoir un avis, et ce n'est pas non plus le résultat. Il nous arrive malheureusement tous les jours de publier des résultats d'enquête avec lesquels nous sommes en désaccord, et d'ailleurs le contrat de confiance, c'est quand on commande une enquête, on la publie et on la publie intégralement. J'ajoute enfin que ce n'est pas le texte de l'analyse de François Crosse qui est le collaborateur de l'IFOP qui a rédigé ça.
Et qui dirige le pôle genre, sexualité et santé sexuelle à l'IFOP.
Je termine par là. C'était le questionnaire, le fait qu'on s'interroge seulement sur les tenues des filles et pas sur les tenues des garçons, la rédaction d'un certain nombre de questions, qu'on ne s'interroge pas sur quelles sont les raisons qui expliquent que les Français sont opposés à ces tenues, ni sur comment on gère cette situation. Bref, je pense qu'on pouvait faire un sondage qui soit plus complet et qui aurait pu être justifié.
Natacha Polony.
Je vais vous dire, je suis totalement d'accord avec les réserves qu'émet Gilles. En effet, la question de la tenue vestimentaire des garçons aurait été intéressante parce qu'on aurait pu constater qu'en effet, il y a aussi des restrictions vestimentaires sur les garçons dans les établissements scolaires. De fait, moi, ce qui m'intéressait dans ce sondage, c'est justement la question que je me posais. Par exemple, les femmes, ce sondage le montre, sont les plus enclines à vouloir interdire certaines tenues au lycée. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce qu'elles ont intériorisé l'idée qu'une femme serait en danger avec certaines tenues ? J'aimerais comprendre ce qu'il y a derrière. Mais c'est pour ça aussi que nous avons publié ce sondage à Marianne. C'est justement parce que ces réponses-là nous intéressaient, outre les limites qu'on peut émettre sur la forme du sondage. Après, rappelons une chose. En effet, il y a une forme de bulle. De bulles Twitter qui s'est formée autour de ça, avec une excitation qui, moi, me semble toujours délirante, et avec des arguments fallacieux de la part de certains qui, en fait, étaient plus gênés par les réponses que par le sondage lui-même. Et je trouve un peu inquiétant qu'on se dise maintenant qu'il y a des questions interdites parce que les réponses nous déplaisent. Je préfère l'analyse. Et encore une fois, après, on peut discuter de la formulation et de l'entourage de ce sondage. Et je trouve ça, en effet, légitime. Et
d'un mot, d'autant que Marianne, le magazine, a pour logo une femme au sein nu, en l'occurrence, la liberté guidant le peuple. Et que paradoxalement, on s'est dit oui, mais vous êtes sur une position conservatrice. C'est ce qui vous a été reproché dans ce paradoxe-là.
Non, mais ce qui est extraordinaire, mais Gilles, Gilles vient de le dire. Enfin, quand on commente un sondage, on n'est pas en train de dire qu'on est pour, qu'on est d'accord avec le résultat du sondage. Enfin, c'est absurde. On a parlé la semaine dernière, il y a deux semaines, de ce sondage sur la peine de mort. Ceux qui ont fait ce sondage et ceux qui l'ont publié ne sont pas pour le rétablissement de la peine de mort.
C'est
donc arrêtons avec ce genre de stupidité. Voilà. En revanche, nous, il nous semble qu'il est toujours intéressant de comprendre de quoi on parle et quel est l'état de l'opinion. Moi, je trouve ça important.
C'est dit. D'un mot, Gilles, ouais. Avant d'accueillir notre invité, Julia Cagé.
Juste d'un mot, parce que je trouve que la situation n'est pas exactement comparable avec celle de la peine de mort. Le problème de la peine sur la peine de mort, il n'y a pas d'interrogation sur la question elle-même. C'est la même question qui est posée depuis 30 ans. Là, c'était le contenu du sondage qui était interrogé. Ça nous est arrivé on va dire à peu près dans les mêmes proportions la première fois qu'on a fait un sondage sur le complotisme. Ben, on a essayé d'en tirer les leçons et de modifier l'enquête l'année d'après. Maintenant, tout se passe bien.
France Inter, 12h30 à suivre dans le grand face-à-face, le débat.
France Inter. Le grand face-à-face, le débat.
Comment refonder notre modèle démocratique? Comment répondre à la crise de la représentation? Des questions qui sont au cœur de Libres et égaux en voix, le dernier essai que publie l'économiste Julia Cagé, un plaidoyer pour la démocratie, je la cite, un plaidoyer féministe écrit par une femme, mais un plaidoyer qui met la lutte pour l'égalité femmes-hommes au même plan que toutes les autres, celle pour les classes populaires et pour les minorités. Je ferme les guillemets. Bonjour Julia Cagé.
Bonjour.
Bienvenue et merci d'être au micro de France Inter. Vous présidez l'association des lecteurs du journal Le Monde et vous êtes très engagée dans l'idée d'un autre modèle de financement pour garantir l'indépendance des médias. On va en parler tout à l'heure. Parce que vous formulez des propositions fortes pour refonder notre démocratie, et ça concerne les partis politiques, ça concerne le système électoral, ça concerne des sujets qui sont pas seulement institutionnels, mais également sociétaux, pour le dire rapidement. Autrement dit, le champ d'action et de réflexion est vaste, et on va en débattre. Mais un mot d'abord sur le titre « Libres et égaux en voix ». Expliquez-nous ça, ça s'appelle le suffrage universel, non ?
Le suffrage universel, c'est quand chacun, dans les urnes, a la même voix. Aujourd'hui, ce dont on s'aperçoit, c'est que ce suffrage universel, il existe en principe, c'est-à-dire que chacun peut avoir la possibilité d'aller voter, mais que dans les faits, les citoyens français ne se sentent plus représentés. Pourquoi ? Ils ne se sentent plus représentés parce qu'ils n'ont pas de représentants à leur image. Ils ne se sentent plus représentés parce que quand ils ont des revendications, ils ont l'impression que ces revendications ne sont plus entendues. Ils ne se sentent plus représentés. Du coup, ils se tournent de plus en plus vers la rue. Et ce que je dis dans le livre, c'est que finalement, on a éviter de s'interroger sur les dysfonctionnements de notre démocratie. Donc, les Français ne vont plus voter, on dit quoi ? Ah, les Français sont paresseux. Les Français ne font plus confiance aux médias, on dit quoi ? Ah, les Français sont crédules. Alors qu'en fait, on devrait s'interroger sur les raisons pour lesquelles les Français pensent aujourd'hui qu'aller aux urnes est inutile,
sur les
raisons pour lesquelles... Voilà.
Et mais Julia Cagé, juste un mot, mais parce que la question est vraiment naïve, vous dites le suffrage universel existe en principe, mais pas dans les faits. On peut vous répondre, si, il existe dans les faits. Il existe le suffrage universel dans la démocratie française, dans la République. Suffrage universel direct, vote à bulletin secret, et de fait, une voix vaut une autre voix, vaut une autre voix.
Une voix vaut une autre voix, vaut une autre voix parce que vous ne pensez qu'au moment des urnes. Pensons par exemple aux campagnes électorales. Dans les campagnes électorales aujourd'hui, vous avez des gens qui financent les partis politiques, vous avez des gens qui financent les campagnes électorales. Quand on regarde les conditions de financement des campagnes électorales, on s'aperçoit de quoi ? Que ce sont les plus aisés aujourd'hui qui financent très majoritairement la vie politique. Or, les dépenses électorales ont un résultat, ont un effet très concret sur les résultats électoraux. Donc on voit qu'avec l'argent investi, on a une distorsion.
Il y a aussi un financement public.
Ensuite, on a un financement public qui favorise énormément les plus gros donateurs, puisque la moitié du financement public aujourd'hui aux campagnes électorales se fait à travers les réductions fiscales associées aux dons des plus aisés aux partis et aux campagnes.
Gilles Finkelstein, vous l'avez lu avec attention et Natacha aussi.
Alors, je l'ai lu pas seulement avec attention, je l'ai lu avec plaisir et avec intérêt. C'est vraiment, je trouve, un bon livre parce qu'il y a à la fois de l'analyse, beaucoup de propositions, il y a de l'engagement, des convictions, il y a un ton. Bon, donc vraiment, je recommande la lecture du livre. Et puis, il y a une conception de la démocratie exigeante, et y compris qui accepte les contraintes de la démocratie, c'est-à-dire l'acceptation des désaccords et de l'échange argumenté. Donc ça, je trouve que c'est vraiment très bien. peut-être au cœur de votre, enfin, ce qui est un des fils rouges, et peut-être qu'il faut, enfin, moi, c'est par là que j'aimerais partir, c'est sur la centralité du clivage gauche-droite. C'est un thème sur lequel j'ai moi-même écrit. Je l'ai dit, je pense que c'est un excellent clivage en ce sens que c'est pas le bien et le mal. D'un côté, parce que on peut être de droite et on peut être de gauche, à la différence de beaucoup d'autres clivages dans lesquels un des deux camps est l'incarnation du mal. Donc, je dis, c'est un bon clivage, c'est un clivage qui a encore une réalité. C'est vrai sur les questions sociales, c'est vrai sur les questions sociétales. On l'a vu encore dans l'enquête sur les fractures françaises qu'on a publiée la semaine dernière.
Ouais.
Ma question est, jusqu'à quel point ce clivage demeure-t-il central, comme vous voulez le dire? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de questions qui échappent en profondeur au clivage gauche-droite? Je pense au débat qu'on vient d'avoir sur le séparatisme. Je pense.
Bah, laissez justement Julia Cagé vous répondre.
Aux questions européennes.
Parce que vous dites que refuser ce clivage, c'est pas simplement se tromper, c'est en plus dangereux.
Je dis pas refuser. Hein. Je dis jusqu'à quel point c'est encore le clivage structurant qui structure tout.
Non, ce que je dis dans le livre, c'est que le clivage structurant, contrairement à ce qu'on veut nous imposer, n'est pas le clivage entre les progressistes d'un côté et les populistes d'un autre côté. Et que notamment au cours des dernières années, on a voulu nous imposer un discours du progressisme et de l'expertise en disant que sur toutes les questions complexes, il n'y avait qu'une seule réponse et que tous ceux finalement qui s'opposaient à la logique de ce qu'on appelle l'expertise seraient des populistes. Et je pense qu'on a tort parce qu'en s'inscrivant dans ce débat qui fait que aujourd'hui les progressistes refusent toute opposition, d'une part on rend l'opposition très bête. D'autre part, on se prive du débat politique et on se prive de tout ce que peut nous apporter la délibération.
Et les antagonismes.
Et enfin, surtout, on se prive de la définition des bons antagonismes. Moi, je ne pense pas que sur les différentes questions, il faut dire ça c'est de gauche, ça c'est de droite. Par contre, je pense que sur la question du chômage, il y a de multiples problèmes et de multiples solutions possibles. Je pense que sur la question de l'immigration, il faut un débat qui soit beaucoup plus apaisé qu'aujourd'hui. Je pense on a des multiples questions qui nous font
mais
face.
Mais vous ne répondez pas, Gilles, justement, sur le séparatisme, par exemple. Est-ce que c'est une question qui relève du clivage droite-gauche ou qui peut être posée en ces termes?
Je pense que c'est une question que je ne pose pas en termes de clivage gauche-droite, mais certainement pas en termes de clivage populisme-progressiste. Je pense que c'est une question complexe qui doit donner lieu à une délibération. Et je pense que l'ensemble, par contre, ça c'est important, des Français doivent être partie prenante de cette délibération. Et c'est vraiment ça qui est au cœur du livre. Quand je dis le clivage gauche-droite, ce que je veux dire, c'est que on a voulu nous dire que finalement, on aurait des partis au-dessus de la mêlée. Des partis, des mouvements au-dessus des partis. D'un côté, on aurait, d'une certaine manière, les populistes qui, eux, seraient entièrement dans l'antagonisme, le peuple contre tous les autres. Et puis, on aurait les progressistes qui voudraient imposer leur vision en termes d'expertise, il n'y aurait pas lieu à débat. On peut ne pas vouloir parler de gauche-droite. Moi, ce que je dis, c'est que sur toutes les questions, on a besoin d'une multiplicité de points de vue et que ce débat-là, on veut le refuser au peuple aujourd'hui.
Natacha Polony.
Alors, j'ajouterai mes éloges à ceux de Gilles, c'est-à-dire que je pense que ce livre est passionnant. Pour ma part, j'en partage énormément de constats et même je trouve très intéressante la réflexion et plutôt votre méfiance vis-à-vis du populisme théorisé par Chantal Mouffe cette réflexion sur ce qui peut constituer une authentique démocratie, c'est-à-dire comment on articule la démocratie représentative avec des tentatives de démocratie un peu plus directe. Tout ça est absolument passionnant. J'ai une question toutefois, c'est que votre réflexion est essentiellement institutionnelle. Et c'est nécessaire, en effet, nous avons très très clairement, en particulier en France, un problème énorme d'institutions qui ne sont plus démocratiques. Pour autant, ma question est la suivante. Il me semble que la crise de la démocratie représentative vient en grande partie, non pas seulement de questions de mauvaise organisation institutionnelle, mais de l'espèce de sécession forgée par le néolibéralisme et cette façon un peu partout qu'il a eu de s'imposer et de justement contourner les démocraties, si imparfaites soient-elles. Et j'ajoute qu'il y a une dimension qui est une dimension culturelle, c'est-à-dire la question de savoir comment on entretient une véritable culture démocratique, puisque vous le rappelez en permanence, la démocratie c'est pas juste le vote,
oui,
mais c'est aussi une façon d'être au monde. Moi je cite assez souvent la phrase de Thucydide dans la guerre du Péloponnèse, Périclès dit de la part des Athéniens, nous sommes les seuls à penser qu'un homme ne se préoccupant pas de politique mérite de passer non pour un citoyen paisible, mais pour un citoyen inutile. Ce qui est un peu violent, mais qui résume la question de l'implication. Donc comment traitez-vous la question culturelle dans une société consumériste où en fait tout est fait pour que les citoyens acceptent de ne plus être citoyens.
Julia Cagé.
Dans le livre, ce que j'ai essayé de penser finalement, c'est l'articulation entre la philosophie politique d'une part et les changements institutionnels de l'autre. Je parle beaucoup d'institutions, mais j'ai beaucoup lu et relu des chercheurs comme Hannah Arendt, comme Anna Pitkin, qui théorisent la démocratie représentative avec une vision de la représentation descriptive, donc d'avoir des élus à l'image du corps électoral. Et ensuite, justement, je pense profondément qu'il faut changer...
Représentation descriptive, c'est important, il faut l'expliquer parce que...
La représentation descriptive, c'est vraiment ce qui est au cœur du livre. La représentation descriptive, c'est quoi? Ça consiste à dire que la démocratie n'est pas suffisante si les citoyens ne sont pas représentés par des élus à leur image. À leur image, ça veut dire des élus qui ont des caractéristiques correspondant à celles du corps électoral. La moitié de femmes, puisqu'il y a à peu près la moitié de femmes dans la population. La moitié d'élus qui viennent des classes populaires, puisque les employés, les ouvriers, les travailleurs précaires, aujourd'hui, c'est à peu près la moitié de la population active. Des minorités visibles parmi nos représentants. C'est-à-dire que c'est important, finalement, d'avoir aujourd'hui des représentants à notre image. C'est important pour deux raisons. C'est important d'une part parce que quand on a plus de diversité parmi les représentants, et quand on a des femmes, par exemple, et pas seulement des hommes, cela a été étudié et on a montré que ce ne sont pas toujours les mêmes politiques qui sont menées. D'ailleurs,
alors
ça ne veut pas dire qu'on
en parle justement tout à l'heure.
Ça ne veut pas dire que les femmes, ça soit mieux que les hommes. Ce qui est important, c'est d'avoir les deux. C'est-à-dire sur chaque problème, d'apporter des points de vue multiples. Et c'est important pour une deuxième raison qu'on sous-estime énormément. Et je pense que ça se rattache à la question de Natacha Polony sur la culture démocratique. C'est extrêmement violent pour un certain nombre de groupes. C'est extrêmement violent pour les femmes, c'est extrêmement violent pour les classes populaires, c'est extrêmement violent pour les minorités, de ne pas avoir de représentants à leur image. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire que chaque femme veut faire de la politique ou chaque ouvrier voudrait faire de la politique, mais par contre, comme femme, vous voulez voir une moitié de femmes parmi les députés. Comme ouvrier, vous voudriez voir des ouvriers parmi les députés. Or aujourd'hui, si vous regardez par exemple en France l'Assemblée nationale, vous avez à peine 4% des députés qui sont employés, ouvriers ou travailleurs précaires. Et ils représentent 50% de la population active. Et c'est ça, finalement, qui entretient cette culture qui fait qu'aujourd'hui, les Français ne font plus vraiment confiance dans le système démocratique. On n'a plus l'impression, finalement, d'être entendus à leur juste mesure. On n'a plus l'impression que leur voix pèse. Et là-dessus, j'assume complètement l'aspect institutionnel. Je pense que pour faire peser la voix de chacun, il faut modifier les institutions. Alors ça vend parfois un peu moins de rêve que quand on lit Les Populistes ou quand on lit Chantal Mouffe. J'appelle pas au grand soir ou au fait de renverser la table. Tout simplement parce qu'en fait, moi j'ai 36 ans aujourd'hui. J'aimerais bien que ça fonctionne un peu mieux. C'est-à-dire, depuis que je vote, ça a jamais fonctionné très bien. On a eu l'extrême droite plusieurs fois au second tour. Malheureusement, ça risque encore de se reproduire. Donc, on peut faire des grands discours ou alors on peut penser à des mesures concrètes qu'on pourrait mettre en œuvre dans les prochains mois pour essayer de faire progresser un peu notre démocratie.
Gilles Finkelstein.
Alors, je trouve que cette idée de la démocratie, de la représentation descriptive est un des éléments vraiment originaux, à la fois conceptuellement et sur les conséquences que vous en tirez, qui est une idée qui est stimulante, qui par certains aspects est dérangeante par rapport à un certain nombre de conceptions que l'on peut avoir, où on peut considérer que ce qui est déterminant, c'est de voter pour ce que l'on croit et moins pour ce que l'on est.
Ou pour des personnes compétentes ou des personnes à qui on va faire confiance pour nous représenter.
Oui. Ma question est, vous prenez une des dimensions de l'identité. Je mets à part la parité de genre, ça, sur lequel nous sommes en accord total. Mais sur ce que
pas
vous
sûr.
Appelez... la. Non mais Julia Cagé et moi.
En oui, revanche, pas sûr.
Largement. En tout cas, sur la parité, ma question est sur la parité sociale.
Oui. Le fait
que la moitié de l'Assemblée, obligatoirement, soit-tu. Pourquoi vous essayez de lever les objections d'un livre. Pourquoi cette dimension-là de l'identité? Est-ce qu'une fois qu'on rentre là-dedans, il n'y a pas derrière, inéluctablement, d'autres revendications d'identité sur l'âge, sur la religion, sur autre chose qui aboutissent?
Laissez Julia Cagé vous répondre. On a compris votre point, Gilles.
Moi, j'ai compris.
Non, parce que ça aboutit obligatoirement, finalement, au tirage au sort.
Non, au contraire. Mais par contre, on va parler après du tirage au sort. Je vais répondre d'abord sur la compétence, quand même. Parce que moi, je fais des propositions assez concrètes dans le livre, notamment ce que j'ai appelé l'assemblée mixte, pour penser tout à la fois davantage de représentations descriptives et la compétence. Je ne dis pas justement qu'on va tirer les gens au sort pour les mettre à l'Assemblée nationale. Je dis qu'il faut faire une assemblée mixte. Ça veut dire quoi? Qu'il faut, pour les élections législatives, que les partis politiques présentent au moins une moitié de femmes, au moins une moitié de candidats qui viennent des catégories défavorisées, et que parmi leurs élus, ils aient entre 40 et 60% de femmes et 40 et 60% de candidats qui viennent des classes populaires. Donc c'est une manière de
Et prendre en compte les origines, prendre en compte leur handicap aussi.
Non, alors on va en revenir là-dessus parce que c'est là que Gilles veut venir. Mais ouais. D'abord, je veux dire qu'en faisant ça, on pense en même temps la représentativité et la compétence. Et aussi, on a la délibération. C'est-à-dire qu'on a le vote et on a la procédure de délibération politique. Je pense que ceux qui veulent le tirage au sort, on est d'accord sur l'objectif. L'objectif, c'est d'avoir des représentants à l'image de la société. On n'est pas d'accord sur la méthode. Pourquoi? Parce que ceux qui veulent le tirage au sort ont renoncé à la démocratie représentative. Et moi, ce livre, c'est une déclaration d'amour à la démocratie représentative, et c'est pour ça que j'essaie de penser des manières de l'améliorer. Alors vous allez me dire, mais oui, mais si on fait ça, on va pas penser à tout. On va pas penser au handicap, on va pas penser à la religion. Mais commençons déjà par deux catégories qui sont relativement facilement définies. Les femmes, c'est la moitié de la population. Les classes populaires, c'est la moitié de la population. Franchement, si on faisait ça pour les prochaines législatives de 2022, on aurait déjà progressé. Et ensuite, faisons rentrer d'autres dimensions. Le problème des autres dimensions que vous mentionnez, notamment la dimension religieuse, ou même la dimension en termes d'origine ethnique. La plupart des gens ne veulent pas, ou la dimension d'ailleurs en termes de sexualité. La plupart des gens ne veulent pas être décrits par leur sexualité. Ils ont le droit d'être hétérosexuels, ils ont le droit d'être homosexuels, ils ont le droit de
D'ailleurs,
passer l'un à l'autre.
D'ailleurs, vous dites vous-même, je ne suis pas
ils
née
veulent
femme.
Pas, forcément que cela les définisse. En termes de religion, c'est pareil. La religion, vous avez le droit de ne pas vouloir exprimer votre point de vue par rapport à la religion quand vous êtes candidat. Il se trouve que le métier que vous faites au moment où vous vous présentez pour les législatives, ou votre genre au moment où vous vous présentez pour les législatives, ça c'est clairement défini. Alors on ne peut pas dire « Ah oui, mais ça ne sera pas parfait ». Parce qu'en fait, tant qu'on ne tire pas au sort, on n'aura pas une exacte représentation de la société, il ne faut rien faire. Ça ne sera pas parfait, mais ça sera mieux que ce qu'on a aujourd'hui.
On va c'est faire pour circuler la parole. J'aimerais savoir ce que Natacha Polony en pense justement, parce que vous citez ce cas, vous citez justement l'idée qu'il faut bien démarrer quelque part, et vous imaginez un lecteur de votre livre par hasard, il serait de sexe masculin, d'origine maghrébine, et il pourrait se sentir laissé pour compte, puisqu'effectivement il rentre pas dans tous les critères que vous venez de définir, mais faut bien commencer quelque part. Natacha Polony.
Oui, mais justement, c'est la réticence que je peux avoir avec le modèle que vous proposez, c'est qu'il me semble excessivement formaliste et peut-être pas assez, pour employer un grand mot, dialectique. C'est-à-dire le fait que la représentativité est absolument nécessaire dans la mesure où nous avons tous besoin de savoir que ceux qui nous représentent sont à peu près semblables, sinon en effet il y a un détachement de la part des citoyens. Certes, à ceci près que il me semble que votre système court le risque, et j'ai l'impression que Gilles essayait d'exprimer ça, court le risque d'accentuer la demande d'identification totale de la part de chaque individu, et le fait donc de ça va renforcer la tentation de s'enfermer dans certaines identités. Et il peut arriver que l'on considère, même quand on est une femme, qu'un homme va mieux nous représenter. Vous dites à un moment du livre, j'en suis arrivée au point où je considère que Elizabeth Warren aurait été une meilleure candidate que Bernie Sanders parce qu'elle est une femme.
Et je dis que c'est un problème.
Je comprends pourquoi vous le dites. Ça peut m'arriver aussi, mais il me semble que il faut en fait articuler les deux. C'est-à-dire que vous allez au bout de l'idée de la représentation exacte. Or, je pense qu'il faut aussi enclencher un mouvement qui permette à chacun de considérer que rien de ce qui est humain ne nous est étranger et que nous pouvons être ouverts aux problématiques qui ne sont pas les nôtres. Sinon, nous arrivons à un morcellement qui est aujourd'hui en voie de s'imposer identitariste d'extrême droite et d'extrême gauche.
Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais c'est pour ça que je fais des propositions pour essayer de résoudre les problèmes un par un. Notamment sur Elizabeth Warren, il y a plusieurs endroits dans le livre où je bats ma coulpe d'une certaine manière, et je dis ce n'est pas normal qu'on en soit aujourd'hui à une situation où je pense parfois en termes de politique comme femme, alors que je devrais penser comme citoyenne. Donc comment on fait ? Si on avait mis en place des règles qui garantissent la parité entre les femmes et les hommes à l'Assemblée nationale, on arrêterait de se poser la question des femmes et des hommes, et finalement ça serait tout naturel de voter aujourd'hui pour une femme, demain pour un homme, peu importe le genre de l'électeur. C'est pour ça qu'il faut résoudre les problèmes un par un. La deuxième chose, et ça me paraît encore plus essentiel et central finalement que cette idée d'assemblée mixte, c'est qu'il faut aussi, pour bien choisir les élus, démocratiser le fonctionnement des partis politiques et redonner finalement de la voix aux citoyens dans le fonctionnement des partis politiques. Aujourd'hui, nous avons des partis politiques qui sont oligarchiques. Nous avons des partis politiques qui sont complètement verticaux et qui finalement se sont attribués le monopole de la représentation. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Et finalement, c'est le cas aujourd'hui des trois partis qui réussissent le mieux dans les urnes, que ce soit La République En Marche, le Rassemblement National ou la LFI. Et d'ailleurs, ces trois partis ont un peu comme point commun de ne plus vouloir s'appeler parti. Ils s'appellent mouvement. Et donc, on est un mouvement, donc on aurait résolu tous les problèmes des partis politiques. Sauf que ces partis-là ne vivent que par l'incarnation. Or, le parti politique, c'est censé quand même être un des premiers outils entre les citoyens et les urnes, c'est-à-dire entre les citoyens et la démocratie. Donc, une des propositions que je fais dans le livre, et je pense que là-dessus vous serez pour, c'est le fait d'avoir des primaires ouvertes obligatoires. Et je dis qu'un parti, pour présenter un candidat à la présidentielle, plutôt qu'avoir 500 signatures de maire, doit organiser une primaire ouverte obligatoire, délibérative, avec au moins deux candidats de genre différent, une femme, un homme, au moins deux candidats, et réunir pour ces primaires 1% du corps électoral.
Ça veut dire par exemple qu'Emmanuel Macron n'aurait pas eu le droit de se présenter, selon votre système ?
Ah ben non, c'est pour remplacer les 500 signatures.
Puisqu'il n'avait pas de parti,
là, il aurait
qu'il a refusé le principe des primaires.
Il aurait dû organiser avec La République En Marche, puisqu'il avait créé un parti.
Il a choisi de ne pas faire.
Un an. Ah oui, mais ça, il faut changer les règles du jeu. Aujourd'hui, si vous voulez.
Donc avec vos règles, Emmanuel Macron n'aurait pas pu se présenter à la présidentielle.
Non, avec mes règles, Emmanuel Macron aurait organisé une primaire pour pouvoir se présenter à la présidentielle. Et si ces règles étaient adoptées, ça voudrait dire que pour 2022, l'ensemble des partis qui voudraient présenter un candidat à la présidentielle, plutôt que de partir à la course à 500 élus, organiseraient des primaires qui réuniraient 1% du corps électoral.
Gilles Finkelstein, puis Natacha.
Vous concentrez une grande partie de vos réflexions sur les partis politiques, sur l'Assemblée nationale, sur les médias, et il y a une sorte d'angle mort qu'on esquisse là avec ce qui est aujourd'hui le cœur du pouvoir dans l'élection, dans le système institutionnel français, qui est le président de la République. Vous parlez, on l'évoque d'un mot, des candidatures, donc l'idée de substituer aux 500 parlements, aux 500 élus, le parrainage de 500 élus, 1% de citoyens, c'est très bien. Une primaire obligatoire, je trouve que ça se discute. Je trouve que c'est une sorte...
1% de citoyens, 500 signatures, on sait ce que c'est. 1% du corps électoral, c'est 4 millions de personnes, à peu près.
Ça c'est 10%.
Ça, c'est
10%. Donc c'est 400 000 personnes.
Oui, voilà.
Non, mais c'est justement pour donner une idée claire.
Oui, c'est à peu près 400 000
citoyens. Ça, c'est une très bonne proposition, parce qu'on a vu, ça fait maintenant élection après élection, on voit des situations dans lesquelles des partis, des candidats qui sont représentatifs, qu'on les aime ou qu'on les aime pas, ont des grandes difficultés à concourir. Donc, substituer aux 500 parrainages le 1%, c'est très bien. Les primaires obligatoires, je trouve qu'il y a une sorte de confusion entre la procédure et l'objectif. Il y a des situations dans lesquelles un parti n'a pas d'interrogation sur qui est son candidat. Pourquoi imposer sa primaire ?
Julia Cagé.
Vous dites ça, mais c'est qui un parti ? Un parti, ce sont les 10 personnes qui dirigent ce parti, c'est le comité national de ce parti. Pour moi, un parti, ce sont les électeurs qui vont voter ensuite pour ce parti. Et ça, je peux vous assurer que pour tous les partis
sympathisants d'un
politiques,
parti.
Vous avez les adhérents, vous avez les sympathisants, mais qui va aller voter demain à l'élection présidentielle ? C'est l'ensemble des citoyens. Et ces citoyens-là, ils vont avoir le choix entre quoi ? Entre des candidats choisis par leur parti. Donc s'ils n'ont pas eu leur mot à dire au départ pour choisir les candidats, on les a privés d'une partie de la démocratie, d'une partie de l'expression de leurs préférences politiques. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte. Et c'est ça que le fait d'avoir des primaires ouvertes, délibératives, et de remplacer les 500 signatures, qui sont quand même là, je pense que plus personne ne veut ce système de 500 signatures. On ne sait pas par quoi le remplacer, ça permet à la fois de le remplacer et de démocratiser le fonctionnement des mouvements politiques.
Natacha ?
Oui, je suis à peu près sur la, une fois de plus dans cette émission, c'est étonnant, sur la même position que Gilles, c'est-à-dire que je suis...
Oui, c'est pour le moins étonnant.
Je sais pas s'il faut que ça me rassure ou que ça m'inquiète, mais...
Je vous laisse décider, Julia Cagé.
Non, c'est-à-dire que je vous rejoins tout à fait sur le problème des 500 signatures. Après, j'ai plus de doutes sur cette question des primaires et sur la façon dont on considère qu'un parti doit organiser sa vie politique, sa vie démocratique. Mais je reviens, j'ai l'impression que vous n'avez pas tout à fait répondu à ma première question, on n'a plus beaucoup de temps. Ma première question portait sur le rôle de l'éducation dans tout cela, parce qu'en fait, il y manque énormément une question d'éducation à la démocratie, d'éducation aussi des filles, qui permettrait justement de faire en sorte qu'elles ne se censurent pas elles-mêmes quand il s'agit de prendre le pouvoir. Et je crois que, en fait, la question des institutions ne réglera pas tout. Nous sommes dans un système économique qui a intérêt à limiter la démocratie. Je pense que ça se voit en particulier sur la question des médias et qu'en fait toutes les règles possibles que vous mettez en place et dont certaines sont excellentes ne suffiront pas sans ce travail de fond sur le rôle d'un citoyen au sein d'une société.
Bah, je vais vous répondre sur les médias. Ali Badou
et l'éducation,
ça va ensemble. Vous soulignez tout à l'heure que j'étais présidente de la Société des lecteurs du Monde. On vient de créer une nouvelle association qui s'appelle Un bout du monde. Cette association a pour but la défense de l'indépendance des médias et veut une réappropriation citoyenne des médias par chacun d'entre nous, c'est-à-dire même ceux qui finalement aujourd'hui ne vont pas être abonnés au Monde ou à tel ou tel média. Et c'est de dire qu'il faut se réapproprier collectivement ce concept d'indépendance des médias.
Mais les journalistes
L'association
du Monde sont indépendants.
Un bout du monde. Les journalistes du Monde aujourd'hui sont indépendants et en même temps quand vous demandez aux citoyens est-ce que vous faites confiance aux médias, vous avez à peine un quart des citoyens qui répondent faire confiance aux médias. Donc l'idée c'est de dire aux citoyens, vous ne faites pas confiance aux médias ? Très bien. Donnez 5 euros, 10 euros, 15 euros, 20 euros pour devenir actionnaire de vos médias. Et là, finalement, vous êtes responsable de garantir l'indépendance des médias. C'est pas une manière de remettre en cause l'indépendance des journalistes, c'est une manière de dire aux citoyens, attendez, si vous n'êtes pas content aujourd'hui du fonctionnement des médias, notamment parce que vous vous interrogez, par exemple, sur le traitement par les médias...
Parce qu'ils ne disent pas, par exemple, ce que vous avez envie d'entendre ?
Ah non, pas parce qu'ils ne disent pas ce que vous avez envie d'entendre. Quand vous demandez aux citoyens pourquoi vous ne faites pas confiance aux médias, ils disent parce que le secteur aujourd'hui des médias est surconcentré entre les mains d'un petit nombre d'industriels. Comment faire en sorte qu'il en soit autrement?
Oui, mais ils le disent sur Facebook qui est possédé par un milliardaire encore plus riche que le plus riche des milliardaires français. Ou ils le disent sur Google ou sur Twitter.
Dans ce cas-là, que fait-on? Moi, j'essaie de faire un peu ce que disait Natacha Polony, on essaie de créer un mouvement d'entraînement, de réunir un grand nombre de citoyens. Avec Un bout du monde, on a fait une campagne de financement participatif sur KissKissBankBank et on a dit aux gens, donnez 5 euros, vous pouvez faire une différence. Vous pouvez faire une différence parce qu'en fait, on va essayer de créer un espèce de fonds d'indépendance qui fera en sorte que si demain, vous avez des médias qui sont attaqués, des médias qui sont fragilisés ou que même si au journal Le Monde, on a vu que parfois il y avait des difficultés l'an dernier avec Daniel Kretinsky par exemple, les journalistes ont su protéger leur indépendance. Mais d'une certaine manière, ils étaient tout seuls. Aujourd'hui, ils pourraient avoir les citoyens derrière eux.
Mais ils ont garanti leur indépendance.
Ils ont garanti leur indépendance.
Il nous reste une minute, Julia
Cagé. Et Un bout du monde, ça permettra de la garantir encore davantage.
Gilles.
Alors, une dernière question en 5 secondes. Le cœur de votre livre, c'est que les citoyens dans leur diversité doivent être davantage représentés dans les institutions pour être mieux pris en compte dans les politiques publiques. Vous n'évoquez pas une proposition qui est celle du vote obligatoire, non pas comme une espèce de contrepartie républicaine ou des droits et de devoirs, mais comme obligation pour les élus de s'intéresser à l'ensemble de leur territoire. Est-ce que vous y êtes pour ou opposé ou favorable?
Moi, je suis pour le vote obligatoire à partir du moment où on prendra en compte le vote blanc.
Bien sûr.
C'est les deux qui doivent aller ensemble. Si on laisse aux citoyens la possibilité d'exprimer leur mécontentement en prenant en compte le vote blanc, alors je pense que ça serait une très bonne chose d'avoir le vote obligatoire. Ensuite, encore une fois, le vote obligatoire, d'une certaine manière, il ne faut pas que ça soit vu comme une solution de facilité pour éviter de s'interroger sur les dysfonctionnements du système.
La démocratie n'existe pas, Julia Cagé ?
Elle reste à inventer, et dans le livre, on fait
c'est
des propositions. Enfin, je fais des propositions pour ça, et j'espère les mettre au débat.
Mais vous le formulez noir sur blanc, la démocratie n'existe pas.
Elle reste à inventer.
C'est la phrase qui suit.
Voilà.
Merci en tout cas, Julia Cagé, d'avoir été l'invitée du Grand Face à Face. Libres et égaux en voix est publié chez Fayard, et je pense, après avoir écouté Gilles et Natacha, que vous le recommandez, en tout cas, que vous en recommandez la lecture. Je vous donne rendez-vous samedi prochain, les amis. Merci à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission. À la réalisation, Marie Merrier. À la technique aujourd'hui, Ludovic Asselot. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous demain midi pour Questions politiques avec François Bayrou.